podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv. Alexandre Barlier.
Le président des États-Unis, Teddy Bridges, meurt d'une rupture d'anévrisme. Dans ce cas, c'est le vice-président qui assure la fin du mandat. Sauf que le vice-président est une femme, Mackenzie Allen. On lui demande de démissionner pour que le président de la Chambre devienne lui-même président. Elle refuse et devient donc la première présidente des États-Unis, une candidate qui va devoir faire face à tous les soucis habituels, tout en prouvant qu'elle est capable de remplir la fonction. Vous l'aurez peut-être compris si vous avez vu la série, aujourd'hui on vous parle de Commander-in-Chief. Pour info, en 2006, la série a remporté un Golden Globe pour la meilleure actrice dans un drama. Donald Sutherland était aussi nommé aux Emmy Awards dans la catégorie meilleur second rôle. Gina Davis a été nommée aux Emmy. La série a reçu une nomination aux People's Choice Awards dans la catégorie de la meilleure série. Diffusée dès le 27 septembre 2005 aux États-Unis, les acteurs principaux, je viens de vous le dire, étaient Gina Davis ou encore Donald Sutherland. Gina Davis, on la connaît notamment pour son mythique rôle dans Thelma et Louise, mais également pour le Gina Davis Show à la télévision. Donald Sutherland est évidemment le papa de Kiefer Sutherland, le Jack Bauer de 24 heures chrono, mais on a pu également le voir dans Cold Mountain ou encore JFK. Toujours dans le casting, on peut retrouver Marc-Paul Gosselaar de Sauvé par le Gong ou évidemment de New York Police d'État aux côtés d'Andy Sipovich, mais on retrouve également Kyle Secor de Homicide. Il était également Jack Kane dans Veronica Mars. Pour nous parler aujourd'hui de Commander-in-Chief, c'est Sarah et pour en discuter, Lise-Marie.
Bonjour.
Et Nathanaël.
Bonjour.
Alex, normalement c'est Kyle Secor que tu devais citer d'abord.
C'est ton chouchou, tu peux dire. Mais j'adore Gina Davis, donc ça tombe mal.
Bon, tant pis. Comme tu l'as dit, je vais vous parler aujourd'hui de la première femme présidente des États-Unis, rien que ça. Deux, trois petits mots d'abord pour expliquer un peu l'histoire, parce que je pense que pas grand monde a vu la série télé. Peut-être tout d'abord, je voulais repréciser la raison pour laquelle on lui demande de démissionner. Donc elle est bien vice-présidente, et dans ce cas-là, quand le président meurt, c'est le vice-président automatiquement qui devient président. Dans son cas, elle, on lui demande de démissionner, non pas parce que c'est une femme, enfin en tout cas c'est pas dit telle quelle, mais parce que c'était une candidate indépendante, et qu'elle est la vice-présidente d'un président républicain. Leur vision des États-Unis de la politique n'est pas la même, et donc tant qu'elle était vice-présidente, il considérait que sa mission était remplie, mais de là à devenir présidente des États-Unis en remplacement une personne qui a été engagée sur un programme pour lequel elle ne cautionne pas, il trouvait que ça n'allait pas. En fait, avant de mourir, le président a le temps de lui demander de démissionner, ce qu'elle ne fera pas. Et on se rend compte d'ailleurs, petit à petit, au fil de la saison, qu'elle était déjà déforcée en tant que vice-présidente, parce qu'elle était indépendante, donc derrière elle, aucune force de parti, qui soit républicain ou démocrate, mais aussi inexpérimentée, parce que ça faisait à peine 4 ans qu'elle était au Congrès, et qu'avant ça, elle était rectrice d'une université, ce qui veut dire qu'elle est très bien pour faire des inaugurations culturelles, mais de là à discuter de guerre nucléaire, par exemple, sa vice-présidence était un peu mise à mal. Au moment où elle doit tenir son discours de démission, elle décide de prêter serment. Elle le fait parce que Nathan Templeton, qui est joué par le père de Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, tient devant elle un discours tellement machiste qu'on sent bien que ça la fait chier. Et qu'elle décide donc de prêter serment et de devenir la première présidente des États-Unis. Normalement, c'est lui qui aurait dû devenir le président, une fonction pour laquelle il s'est préparé toute sa vie. Et on sent qu'il ne va pas la lâcher de si près. Il lui dit d'ailleurs qu'il sera toujours derrière elle. Et il se présente d'ailleurs un an après, il commence sa campagne pour devenir président des États-Unis. Les premiers épisodes nous montrent son arrivée à la Maison-Blanche et son arrivée dans le gouvernement. Elle ne change pas grand-chose, elle semble s'inscrire dans la ligne de son prédécesseur. Elle garde d'ailleurs son chef de cabinet qui s'appelle Jim Garner et qui est un des personnages importants.
Et qui est d'ailleurs totalement opposé à ce qu'elle pense. Ils ont totalement des idées opposées. C'est deux clans complètement différents.
Oui, parce que c'était déjà le chef de cabinet du président précédent. Donc il a fait toute sa carrière politique comme assistant de ce président. Et effectivement, c'est lui qui lui a demandé de démissionner. Il est venu lui annoncer que le président était à l'hôpital en lui disant « vous devez démissionner ». Elle refuse, elle va voir le président mourant qui lui dit « vous devez démissionner ». Donc lui est celui qui sait qu'en fait elle est allée contre la volonté, voire les dernières volontés du président précédent. Mais elle le garde parce qu'elle sent que d'abord c'est un type intègre et qu'en plus elle a peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui connaît le boulot, donc vu son inexpérience. Elle s'adjoint aussi Warren Keaton qui était un républicain acharné et très dur, donc pas du tout dans sa veine à elle, mais qui selon elle pourrait faire un très très bon vice-président. Un vice-président qui pourrait l'aider sur les affaires armées parce qu'il a été lui-même officier dans l'armée avant. Elle semble s'inscrire dans la ligne de son prédécesseur et dans un premier temps, on nous montre Mackenzie Allen, c'est d'ailleurs un drôle de prénom je trouve, mais enfin, Mackenzie Allen qui investit la Maison Blanche, sa famille qui déménage. En fait, elle est mariée à Rod Calloway qui était jusque-là le directeur de son cabinet, qui devient donc le first gentleman de l'histoire des États-Unis.
Ce qui n'est pas non plus une position très évidente pour lui parce qu'il a des fonctions qui ne lui correspondent absolument pas.
Déjà, il déteste son bureau qui est tout en rose. C'est ce qui s'appelle un stéréotype, mais bon. Et puis, sa première tâche que Nora, en fait, son assistante lui donne, c'est de décider du menu de la semaine. Donc, il n'apprécie pas des masses. Ou de choisir les fleurs quand le président russe vient avec son épouse, qui est donc la first lady russe. Il doit donc s'occuper de la first lady, mais il doit aussi choisir les fleurs, par exemple, pour le dîner.
Des tâches qu'on imagine très bien faites par Laura Bush, mais qu'on a un peu de mal à voir faites par
un
homme.
Oui, et lui a du mal aussi. C'est un des motifs récurrents de la série, c'est ce balancement entre est-il vraiment le premier gentleman ou est-il encore le chef de cabinet ? Et on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement faciles. Elle a 3 enfants, Horace et Rebecca, son jumeau et son adolescent, et eux vont devoir faire face à la soudaine célébrité de leur maman, mais surtout de eux. Et donc avec tout ce que ça suppose d'hypocrisie et de solitude, parce qu'évidemment on se rend compte grâce à eux que la Maison Blanche peut être une prison assez dorée. Amy est la plus petite et avec elle on va surtout avoir des thématiques du genre « maman est absente » et « ta maman tu la vois plus quasiment qu'entre deux guerres nucléaires » ou « là j'exagère à peine ». Dans son équipe, quelques personnages importants, on a déjà parlé de James Garner, elle a aussi Vince Taylor qui est son assistant personnel, Kelly Ludlow qui devient sa porte-parole, arrive au 9e épisode, Dickie Ronald qui en fait est son futur stratège pour la campagne, parce qu'on se rend compte qu'à partir d'un moment, bon elle dit toujours qu'elle ne veut pas faire campagne mais qu'elle veut être le vrai président, mais il y a un moment où elle doit quand même penser aux 2 ans qui vont suivre, parce qu'en fait ça faisait déjà 2 ans que le président était président, donc vous calculez, il reste donc 2 ans, et on sent à partir de ce moment-là toute une thématique liée à la presse, liée à la campagne, liée à l'image, liée à la compatibilité entre les candidats qui va arriver. Petit à petit, elle doit s'affirmer, elle doit prouver qu'elle est capable de remplir la fonction même si elle n'a pas été élue. Elle doit prouver qu'elle n'est pas une usurpatrice parce que la rumeur va courir qu'en fait on lui avait demandé de démissionner et donc elle va devoir combattre ça. Et elle va petit à petit aussi devoir s'opposer au clan républicain, symbolisé par Nathan Templeton, mais aussi au camp démocrate vu qu'elle est indépendante, elle se prend les tirs croisés. Et elle doit imposer petit à petit sa propre manière de faire parce que elle ne veut faire aucun compromis avec son intégrité, avec sa morale, avec ses valeurs. Elle est très fort attachée à l'enseignement, à la famille, aux droits de l'homme. Et donc quand on est face à un président du Pakistan qu'on a au téléphone ou quand on doit discuter avec le premier ministre de la Russie qui en fait... par exemple, enferme des journalistes, c'est quelque chose de pas évident. Bref, on a un peu l'impression, mais ça je vous en parlerai dans la deuxième partie, qu'on est face à une femme intellectuelle à la tête de la Maison Blanche, ce qui est une certaine manière de voir en fait les femmes, la politique et la présidente.
Madame la Présidente.
Monsieur le Président de la Chambre, merci d'être venu.
Vous avez l'air en forme. Mais ne doit-on pas se reposer après s'être fait opérer de l'appendicite ?
Est-ce que par hasard, vous pensiez avoir le droit de prendre des décisions à ma place dans cette grève ?
Non seulement le droit, mais l'obligation. J'ai cru faire ce qu'il fallait. Je crois avoir trouvé la meilleure solution à cette espèce de problème inextricable auquel la nation faisait face.
Les membres de mon équipe... était sur le point d'obtenir des concessions de la part des travailleurs. Nous allions aboutir à un accord qui allait satisfaire la direction et les salariés, ce qui ne risque plus de se produire, parce que tous les efforts entrepris pour mener à bien ces négociations sont anéantis.
Non, c'est faux. Et nous le savons tous les deux. Vous savez parfaitement que les négociations étaient au point mort et que la situation n'allait pas évoluer. Le pays ne pouvait plus se permettre d'attendre. Alors, j'ai agi dans l'intérêt de notre pays.
Ne me racontez pas d'histoire. Vous n'avez pas agi pour votre pays. Vous vous êtes servi de votre fonction. Vous vous êtes servi de l'opinion publique pour votre campagne, pour satisfaire votre ego démesuré. Avouez-le.
Non, c'est grotesque. J'ai agi dans l'intérêt du pays. Nous étions dans une impasse. Vous étiez enlisé et il fallait que quelqu'un prenne enfin une décision.
Si jamais j'avais besoin de trouver une raison... de vous empêcher d'occuper cette fonction, désormais j'en ai une. Je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir. Et sachez que j'ai le pouvoir de vous tenir écarté de ce poste.
Vous ne pourrez pas m'empêcher de devenir président. C'est au peuple d'en décider.
Vous avez dépassé les limites avec moi. Je ne vous le pardonnerai jamais. Vous allez sortir de mon bureau tout de suite.
Oui, madame.
Il a vraiment l'air d'un salaud, ce Nathan Templeton, ou bien c'est quelque chose qu'on veut essayer de lui faire passer, ou c'est vraiment un salaud ou pas?
En fait, c'est un peu une série un peu manichéenne, tu vois, comme ça, qui à la fois essaye de pas prendre position dans le débat politique, parce que c'est quand même un peu facile de choisir une candidate indépendante comme première femme des États-Unis. C'est du genre je me mouille pas, tu vois. En plus, ça existe pas. Enfin, je veux dire, jusque-là, j'ai vérifié, il y a jamais eu aucun président indépendant. Et aucun vice-président qui est monté président qui était indépendant. Il n'y a jamais eu de vice-président indépendant, on est clair. J'ai été vérifiée moi-même de mes petites mains. Vous allez me dire, il n'y a jamais eu non plus de femme présidente. Mais on est dans de la fiction. Mais c'est quand même une manière de vraiment pas se mouiller. Et donc, non seulement elle n'est ni démocrate ni républicaine, mais en plus, elle prend toutes les bonnes décisions. C'est un peu énervant dans cette série. C'est quelque chose d'assez énervant. C'est une certaine vision de la présidence quand même. Genre, quand tu es président, tu ne règles pas les problèmes des salaires, par exemple, tu ne règles pas les problèmes de sécurité sociale, des choses comme ça. Tu ne règles que des problèmes de sous-marins nucléaires, de missiles nucléaires vendus ou volés par des Afghans, de terrorisme dans les écoles, attaque imminente à 13h et on est à 10h et donc en 3h vous devez trouver tous les suspects, enfin, ou des ouragans couplés à des marées noires. Il n'y a que des trucs comme ça.
Mais en général, quand tu es président des États-Unis, tu es en train de lire un livre avec des enfants quand ce genre de truc arrive.
À l'envers. Oui. Non mais donc elle ne règle que des trucs vraiment très compliqués et en plus elle a toujours les bonnes solutions. C'est facile
mais
de dire
que... Mais quand tu dis elle a toujours les bonnes solutions parce que ça va dans le sens politique que toi
ah oui,
tu préconises ou bien c'est les bonnes solutions dans l'absolu?
C'est des solutions dites morales si tu veux. Il y a un problème avec un sous-marin qui a eu un accident pas très loin de la zone côtière de la Corée du Nord par exemple. Donc la Corée du Nord s'en rend compte et est à deux doigts de déclencher une guerre. Eh ben elle trouve moyen de s'allier les Chinois pour qu'ils aillent calmer les Coréens du Nord. Dans la vraie vie, je ne sais pas comment se passe ce genre de négociation, mais là, elle parvient à négocier ça en ayant un coup d'œil sur les droits de l'homme, un coup d'œil sur le fait qu'ils ne peuvent pas vendre des armes et qu'ils peuvent en acheter. Et donc, finalement, ça reste politiquement correct. On trouve une solution politiquement correcte. Et il y a plusieurs moments comme ça où elle ne se mouille pas les mains. Je veux dire, il y a des militaires, etc., qui doivent libérer des otages. Mais les otages sont tous vivants, sauf un, parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui meure. Et donc, on est face à une présidente qui trouve toujours les bonnes solutions morales.
Mais c'est juste du politiquement correct ou bien on tombe dans la morale traditionnelle américaine à la fin des séries, etc.?
C'est un peu des deux, parce que j'imagine que les républicains trouvent ça peut-être normal, le point de vue de Nathan Templeton, et ça c'est pour ça aussi que je voulais te dire. Donc il est le méchant, oui, non, pas nécessairement.
Enfin, c'est peut-être moi qui le prends pour le méchant, mais...
Dans la série, quelqu'un... il est construit comme étant le méchant, parce que quelqu'un qui dit il faut faire la guerre face à quelqu'un qui dit il faut pas faire la guerre, on a plutôt tendance à se dire qu'il faut pas faire la guerre. Oui, mais on sait bien, vous et moi, que la politique ça se passe pas comme ça, et que de temps en temps, on réussit pas à se mettre le dictateur dans la poche en lui offrant des pralines. Donc dans la série, c'est un peu ça. Et donc, c'est du politiquement correct, et c'est de la morale américaine. Moi, je pense que c'est même une certaine manière de mettre en valeur cette présidence. Si le président, en fait, est là pour ne régler que des crises internationales vraiment compliquées et pas les trucs normaux qu'elle est censée faire, si elle ne fait aucune inauguration mais qu'elle est toujours en salle de crise, ça donne une certaine importance à la place de président des États-Unis. On ne cesse de dire tu es la personne la plus influente du monde libre. Déjà, moi, ce vocable-là, monde libre, je ne suis pas habituée d'entendre ça, mais donc on lui dit tu es la personne la plus influente du monde libre. Donc c'est une certaine vision du président et par là une certaine vision des États-Unis, on est bien d'accord. Donc c'est pour ça que c'est un peu manichéen, c'est parfois un peu emmerdant. Ce qui est aussi un peu embêtant, c'est que les États-Unis sont seuls quasiment. On parle un petit peu d'ONU, on parle un petit peu d'OMC, on les voit jamais. Elle est toujours au téléphone de manière bilatérale avec quelqu'un, mais jamais dans un processus plurilatéral. Donc avec le ministre turc ou avec l'ambassadeur chinois. Et il se paye même le luxe d'avoir un premier ministre russe. Bon, surtout rapport. Effectivement, il y a des journalistes emprisonnés en Russie, mais en fait, c'est un démocrate qui ne fait pas tout ce qu'il veut. C'est un peu un Gorbatchev, si tu veux. C'est déjà bien par rapport aux autres. Et donc, tu peux même pas t'opposer en guerre froide aux Russes. Qu'est-ce que c'est que ce monde où les États-Unis ne s'opposent pas aux Russes? Ben, vous voyez, c'est un peu particulier quand même. Et en plus, elle a toujours raison, même humainement parlant. C'est une mère qui prend des bonnes décisions. C'est une femme qui prend des bonnes décisions. Et on s'attend quand même, sur ce genre de série, à un moment, à avoir des débats de société, un minimum. Mais non, parce qu'en fait, elle a toujours raison. Et elle prend toujours la bonne décision.
C'est clairement la présidente des États-Unis dans 7 à la maison.
Et c'est bizarre. parce que je pensais justement ça, oui. C'est un peu embêtant, d'autant que, effectivement, c'est la première femme présidente des États-Unis. On le sait que vis-à-vis des États-Unis, c'est pas totalement anodin d'avoir ça dans une fiction. Vous allez me dire, fiction-réalité, y a une marge, et c'est pas parce qu'on a une femme présidente des États-Unis dans une fiction qu'on va la voir dans la réalité. Même si on voit que, actuellement, Hillary Clinton est en lice, face d'ailleurs à Barack Obama, qui est lui un noir, et donc on peut faire le lien aussi avec 24 heures chrono. Effectivement, on est face à une fiction qui se prend pas pour ce qu'elle n'est pas, mais c'est quand même pas anodin, et donc je trouvais David Palmer beaucoup plus crédible dans son rôle de président, par exemple, et donc beaucoup plus défendable que Gina Davis dans Commander-in-Chief. C'est aussi intéressant de voir à quel point maintenant les fictions aiment la politique. C'était pas nécessairement toujours le cas avant. Je connais à la Maison Blanche comme série politique. Je connais de nom Capitol, qui était une série des années 80, en 1982. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on a l'impression que les séries s'intéressent beaucoup à la politique. Soit parce qu'on y est, c'est une série qui est axée là-dessus, comme dans la Maison Blanche. Maintenant, c'est une série que moi j'ai pas vue, donc je peux pas savoir si elle est manichéenne, pas manichéenne, etc. Mais elle est axée là-dessus. Et puis on a des séries comme 24 heures chrono, par exemple, dans lesquelles le rôle du président est un rôle important. J'ai lu les propos de François Durpère, qui est en fait un spécialiste des USA, qui disait « Fiction n'égale pas réalité, mais on se rend compte qu'aux États-Unis, les fictions, et notamment les fictions télé, ont quand même cette capacité à faire changer des mentalités. Le fait de présenter quelque chose permet d'y réfléchir, et on le voit avec notamment David Palmer, qui revient maintenant dans quasiment tous les articles concernant les élections américaines. Je voulais juste vous dire qu'il existe une présidente française, par exemple, dans les séries télé, dans L'État de grâce, qui est une série de France 2.
Qui avait fait un four à l'époque de sa diffusion.
Qui a fait un four, et donc on voit bien que c'est pas parce qu'on a une femme présidente dans la fiction qu'on a une femme présidente dans la réalité. Donc je sais pas très bien ce que ça va donner, mais c'était intéressant de le souligner.
Mackenzie, ça y est, tu es réveillée?
Oui, tu peux entrer.
Rod m'a dit que tu faisais la grasse matinée ce matin, ce qui ne t'est pas arrivé depuis que tu as quitté le lycée. Ça veut dire que ou tu es malade, ou tu es épuisée, ou tu déprimes. Tu es trempée.
Non, ça va.
Ne me dis pas que c'est à cause de ce Keaton.
C'est Warren. Et oui, ce qui s'est passé me cause du souci, mais... Oh, tu sais ce que c'est, quand on manque de sommeil.
Mais ça ne m'étonne pas, tu travailles 20 heures par jour. Est-ce que tu as eu le temps d'envisager... Qui va être ton prochain vice-président?
J'ai exercé la fonction pendant un an et demi. Crois-moi, il n'y a pas urgence.
Oh! Mac? Tu es sûr que ça va? Tu n'es pas... Est-ce que par hasard, tu ne serais pas...
Maman, ce n'est qu'un virus.
Tu ferais mieux de rester à la maison. Tu devrais te reposer aujourd'hui.
L'Organisation mondiale du commerce doit se réunir dans 5 heures à Seattle. Je dois assister au congrès des maires à San Francisco dans 10 heures. Et je rencontre les syndicats des compagnies aériennes dans 12 heures à Los Angeles. Oh, et les jumeaux font la tournée des facs.
Ah, et c'est tout.
La question à se poser après tout ce que tu nous as dit, qu'est-ce que Stephen Boschko est allé faire là-dedans?
Oui, enfin, quoique, hein, quand on voit Over, c'est quand même... Enfin, oui. Il est peut-être patriote, tout compte fait, ce type. Oui. Je ne sais pas bien. Ceci dit, c'est pas lui le créateur. Lui, il est producteur.
Oui, il est arrivé en cours de route. Voilà, en plus. On a l'impression qu'il est venu là pour sauver le navire, qui a fini par couler d'ailleurs.
Oui, hein, mais... je pense que c'est clairement ce qui est arrivé, parce que je pense que c'est une série qui descendait dans les sondages.
Et comme on avait Gina Davis à la tête, il fallait bien essayer de sauver quelque chose.
Le créateur, c'est Rod Lurie, inconnu au bataillon avant. Enfin, pour deux, trois trucs, personnellement, j'avais jamais entendu parler. Par contre, Gina Davis, moi, me semble une bonne surprise, en tout cas au début. Je trouve, j'avais peur de ça. Elle est quand même crédible en première femme présidente des États-Unis, elle a cet air un peu BCBG qu'il faut quand même un minimum, un peu même détaché des choses de temps en temps. On a l'impression, enfin, c'est pas une présidente à la Margaret Thatcher et c'est pas une blonde oxygénée comme dans Alerte à Malibu non plus, quoi. Enfin, elle tient le rôle, je trouve.
Ce serait quand même dommage, hein, la blonde oxygénée à la tête de la présidence des États-Unis. Je vois vraiment mal Pamela Anderson en tout cas présidente des États-Unis, ce serait vraiment dommage.
Oui, mais comme elle a déjà été directrice d'une agence de détective privé, on peut s'attendre à tout.
Tout est possible.
Oui, c'est vrai. Après.
Et ben non, ils ont choisi Gina Davis, ouais.
On est sauvés.
Donc elle est crédible. En tout cas, elle est crédible au début. Parce que je trouve que parfois, son petit air un peu détaché devient un souci au fil des épisodes quand elle a face à elle des parents de victimes ou des choses comme ça et qu'elle fait... C'est un peu limite, quoi. Vous voyez? Ou quand elle a son adolescente de fille qui vient et qu'elle lui dit qu'elle en a vraiment marre parce qu'elle n'a pas du tout envie de rentrer à l'école avec une meute de journalistes qui la suivent et qu'elle fait pareil, tu vois, la petite moue, ah, Oui.
C'est quoi, c'est le syndrome Wentworth-Miller avec deux expressions sur le visage?
C'est pas à ce point-là quand même, mais bon, on la voit pas torse nu non plus.
Est-ce qu'elle a un tatouage seulement?
Je sais pas. Par contre, j'ai adoré, mais adoré est un mot assez faible, Kyle Secor en Premier Gentleman, oui. Parce que je trouve que ça le change vraiment très très fort de son rôle de Tim Bayliss dans Homicide.
Et il alors, est crédible en plus.
Il est crédible tout à fait. Vraiment, il en fait pas trop, il est vraiment bien. Et alors Donald Sutherland dans le rôle du républicain, je trouve qu'il est vraiment très très bien aussi. Avec la nuance qu'il faut absolument regarder cette série en version originale et absolument pas en VF, parce que là, ça ne donne rien du tout. Je veux dire, vous oubliez tout ce que je viens de dire si vous la regardez en VF. Comme d'habitude, vous allez me dire. Alors, ce qui est très drôle aussi, ce qui m'a marqué petit à petit, c'est que cette série se passe presque en huis clos. Uniquement à la Maison Blanche et dans certains couloirs, dans certaines pièces ou dans Air Force One. Parfois on est face à d'autres lieux, mais où elle est toujours dans son rôle politique. Donc elle est toujours aussi entourée des mêmes gens, ce qui nous donne une impression vraiment de vase clos comme ça qui est assez intéressante.
Elle est en prison finalement comme Wentworth Miller en fait. Donc elle a peut-être le tatouage de la Maison Blanche sur le torse.
Et en fait, si elle ne parle pas de campagne, c'est parce qu'elle veut sortir.
Voilà, c'est ouais, ça en fait.
Peut-être bien.
Elle est en train de creuser un trou en fait.
En tout cas, la série a creusé un fameux trou dans les sondages. Ça, c'est un fait.
On remarquera aussi que Gina Davis, la plupart de ses films, ça termine souvent dans un ravin, là aussi, la série aussi, malheureusement.
Non, mais ça donne vraiment cette impression d'abord que ne sont conviés dans son entourage que les gens qui composent son cabinet, que les gens qui sont de sa famille, que certains journalistes ou certains hommes politiques, et qu'elle vit vraiment dans un vase clos, qu'elle ne rencontre quasiment jamais le peuple. Et c'est une vision, ça par contre, tout à l'heure j'ai dit que ça donnait une vision un peu bizarre de la présidence comme étant un poste de crise, un poste de spectaculaire, etc. Ici, pour le coup, ça, je trouve, c'est... Je ne sais pas évidemment à quoi ressemble la vie du président des États-Unis, mais je me dis ça, c'est quand même une manière un peu de comprendre certaines choses, le détachement vis-à-vis de la réalité, etc. Par contre, là où j'achète moins, c'est au niveau des scénarios. Je trouve qu'ils sont pas mal au début. Les 2-3 premiers épisodes où on voit un peu comment ça se passe avec les démocrates, les républicains, la manière dont elle arrive à la Maison Blanche, la manière dont sa famille est transportée à la Maison Blanche, ça, je trouve ça assez bien. Puis après, on a vraiment l'impression de ne plus le voir que la salle de crise. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un attentat à Tel Aviv, il y a un sous-marin nucléaire qui est accidenté, il y a un crash d'avion avec des missiles nucléaires à l'intérieur qui évidemment tombe au Pakistan. Il aurait pu tomber en Europe, mais non, pouf, au Pakistan. On assassine des Américains en Turquie, on assassine des Américains au San Pasquale, il y a des menaces terroristes sur plusieurs écoles. Et quand on se tourne vers la politique intérieure, on a le président qui démissionne, un ouragan en Floride le même jour où on a une marée noire en Floride, l'un n'expliquant pas l'autre. Elle veut carrément amender la Constitution, elle doit gracier, enfin en tout cas décider si oui ou non elle va gracier quelqu'un pour une exécution, elle ne fait que ça.
En gros, on résume un peu l'histoire de après le 11 septembre en quelques épisodes, j'ai l'impression, parce que ça fait un peu...
Ah oui, mais avec chaque fois deux événements par épisode, c'est ah ça oui, qui donne un peu ce côté, elle jongle toujours avec deux et à la fin, comme je disais tout à l'heure, elle s'en sort bien. Donc cool aussi, parce que à la fin, elle trouve toujours la solution de toute façon.
Et tu parlais justement d'un changement, j'ai l'impression que ce changement intervient justement au moment où Stephen Boschko arrive dans la série. Que le côté vie quotidienne dont tu parlais tout à l'heure, qui était plutôt assez plaisant, du début de la série, disparaît complètement à l'arrivée de Stephen Boschko.
Et ça, c'est couplé avec aussi des changements de direction dans la caractérisation de certains personnages qui posent un peu problème, à mon avis. Du genre, Nathan Templeton, qui est celui qu'on ne supporte pas au début et avec qui elle s'oppose, devient finalement un adversaire correct et on s'entend bien, finalement il la respecte et puis à la fin redevient l'ennemi numéro un.
Dixit, la scène de Noël.
Oui,
de
voilà.
Thanksgiving, je ne sais plus.
Oui, celle-là, puis aussi celle qu'on a passée en extrait où on sent vraiment qu'il y a un gros tiraillement entre les deux, mais ça se passe aussi par exemple avec le fait que son mari, qui était chef de son cabinet, qui devient premier gentleman, n'aime pas trop d'être juste là pour la façade et donc redemande à avoir des fonctions politiques et puis après redevient quelqu'un qui se retire, donc on se dit mais attendez, il n'y a jamais que 18 épisodes qui sont passés et on a quand même déjà eu le temps d'avoir tous ces rechangements et ces revirements, c'est un peu particulier. Et on a aussi par exemple Dicky, qui est celui qui donc s'occupe de sa stratégie de campagne, qui arrive, qui est un jeune loup, qui veut vraiment se la jouer à l'agression, etc. Puis elle parvient un peu à lui faire comprendre qu'elle, c'est pas sa manière de fonctionner. Et puis, de nouveau, il recommence comme s'il n'avait pas bien compris, quelques épisodes plus loin. Et donc ça, à mon avis, ça pose un peu problème. Et ça sent le « j'essaye de sauver la série ». Mais je n'y arrive pas, la preuve, elle s'est arrêtée après 18 épisodes.
La fin de l'épisode final est plutôt bien réussie, je trouve. le discours qu'elle prononce à la fin de cet épisode, on sent qu'ils veulent dire on veut continuer quelque chose.
Je ne l'ai pas ressenti comme ça, c'est bizarre. En fait, ce qui se passe dans ce 18e épisode, c'est qu'elle veut amender la Constitution pour changer je ne sais plus quel article qui dit que tous les hommes sont égaux. Et elle veut y ajouter une clause qui dit que les femmes aussi. Et donc tout cet épisode tourne autour de ce changement de Constitution, l'amendement de la Constitution. Et ce qui est intéressant, moi je l'ai lu comme étant, ok, on ne peut pas continuer, mais on sait que parfois les fictions peuvent faire avancer les choses dans les mentalités, c'est ce que je disais juste avant. Et donc là, je veux poser ma petite pierre et dire, voilà, les femmes sont égales, etc. Et c'est vraiment un discours très féministe dans ce dernier épisode. On a plusieurs points de vue qui s'opposent, évidemment. Ce qu'on n'avait pas avant, et moi j'avais plutôt bien aimé ça, que effectivement, c'est la première femme présidente des États-Unis, ça se sent de temps en temps et on lui fait la réflexion de temps en temps, mais ça ne tourne pas que autour du sexe du président. Et ce dernier épisode, moi je l'ai vu comme un peu une espèce de testament, tu vois ?
Oui, tout à fait, c'est ainsi que je l'ai ressenti aussi.
Et donc voilà, maintenant je ne sais pas ce qu'il en a été. Je dois vous avouer que je ne sais même pas si cette série a été arrêtée de manière complètement abrupte ou s'il y avait par exemple d'autres épisodes qui avaient été tournés.
La fin a été faite exprès pour clôturer la série. Alors ta conclusion ?
Eh bien ma conclusion c'est que c'est une série qui est intéressante à voir, en tout cas les premiers épisodes. Et puis après on peut faire l'économie de la fin de la saison à mon avis. Même si c'est du Stephen Boschko.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.